Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Hashoma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant alignée avec nos valeurs spirituelles et de pudeur.
Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, si que t'es proche. Alors en ce mois béni, je me devais de, bien évidemment, partager un épisode autour du mois de Ramadan et surtout du jeûne pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Donc comme vous le savez maintenant, je suis aussi sage-femme et dans mon quotidien, je rencontre des femmes qui se posent la question, est-ce que je jeûne ou pas? Zina, est-ce que je peux ne pas jeûner? J'ai envie de jeûner, mais j'y arrive pas, ou j'ai envie de jeûner, mais j'ai peur de mal faire. Donc on sait bien que le jeûne n'est pas obligatoire pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent si elles ont peur pour elles ou pour leur bébé. Et donc, il faut savoir que, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Donc, ce qui va beaucoup revenir dans cet épisode, c'est le fait de s'écouter. C'est vraiment important que tu puisses t'écouter, que tu puisses te rappeler justement que une femme n'est pas l'autre. Et donc, si ta cousine ou ta copine l'a fait, donc si elle a réussi à jeûner tout en étant enceinte ou tout en allaitant, bah, c'est très bien pour elle, psahata, mais c'est pas forcément le cas pour toi, et c'est très bien comme ça en fait. Et même si c'est ton cas à toi, c'est-à-dire que même si toi, lors d'une grossesse précédente, tu as réussi à jeûner alors que les journées elles étaient plus longues et qu'aujourd'hui tu n'y parviens pas, et ben c'est ok. En fait, il faut pas se comparer les unes aux autres, il faut même pas se comparer à soi parce que une grossesse n'est pas une autre justement. Et donc quand je parlais de si on a peur pour soi ou pour son bébé, donc faut savoir que il y a plusieurs signes qui doivent nous alerter. Donc tout d'abord pour celles qui ont décidé de jeûner. Vraiment, soyez, on va dire, alertés par rapport à ce que je vais dire ici et tenez-en compte parce que c'est vraiment important. Donc, l'objectif du jeûne, c'est de se faire du bien, c'est de se ressourcer spirituellement, c'est pas de se mettre en danger, que ce soit donc soit en tant que femme ou son bébé. Donc, si tu es une femme enceinte, peu importe que tu sois en début de grossesse ou en fin de grossesse, faut savoir que déjà, si tu as une pathologie qui est associée, type des problèmes d'hypertension artérielle, un problème de diabète de grossesse, une hyperémèse, donc c'est-à-dire les femmes qui vomissent énormément, ou d'autres pathologies, le jeûne est fortement déconseillé. Donc de toute façon, il faudra un avis médical ou un avis de ta sage-femme, mais je déconseille fortement le jeûne pour ces femmes-là. Pour les femmes qui ont une grossesse qui se passe bien, si tu décides de jeûner, alors si tu as mal à la tête, si tu as une fatigue extrême qui apparaît, si tu as des contractions, donc qu'est-ce que c'est que des contractions? C'est quand ton utérus va vraiment se durcir, donc que tu vas sentir des picotements, des douleurs dans le bas-ventre, comme des douleurs de règles importantes, vraiment... au niveau du bas-ventre, tu vas sentir que ça va un peu travailler, que ça va vraiment se serrer. Et surtout si c'est en fin de journée, là vraiment je conseille de rompre le jeûne parce que c'est déjà un signe de déshydratation et que des contractions s'installent. Alors, si tu es à 38, 39, 40 semaines, on va dire, bah ça peut être juste un signe que le travail se prépare et que c'est juste un travail naturel. Mais si c'est de manière précoce, c'est-à-dire que ça arrive plus tôt dans la grossesse, tu risques d'accoucher prématurément. Il faut vraiment prendre ça en considération parce que ça peut être dangereux et pour toi et pour le bébé. Donc s'il y a vraiment des signes de contraction, retiens bien que c'est un signe de déshydratation. Et donc là, il faut rompre le jeûne et bien s'hydrater. Également, si tu ressens moins de mouvements fœtaux, c'est-à-dire que si tu sens que ton bébé bouge moins que d'habitude, ça peut être un signe, ça doit être un signe qui doit t'alerter, d'accord? Donc s'il y a un mal de tête, s'il y a une fatigue intense, s'il y a des contractions, s'il y a une diminution des mouvements fœtaux, il faut rompre le jeûne, s'hydrater, manger, se reposer, et tu recommenceras demain si tu peux, ou bien ce que je conseille aux patientes qui sont en bonne santé, c'est par exemple d'essayer le jeûne un jour sur deux, ou bien tout simplement de ne pas jeûner, même si les journées sont plus courtes qu'au mois de juin ou juillet ou août, d'accord? C'est souvent ça en fait, on se dit, oui mais il y a quelques années, les journées étaient plus longues et j'ai réussi à jeûner. Comme je disais en intro, il faut pas se comparer. Alors, pour les femmes qui allaitent, quels sont les signes qui peuvent t'alerter concernant un impact négatif du jeûne sur ton allaitement? Alors ça peut être clairement une diminution de la production de lait, Donc tu vas sentir ta poitrine qui est plus souple, tu vas remarquer que ton bébé s'énerve plus au sein, qu'il est plus agité, qu'il a du mal à trouver le sommeil aussi facilement qu'avant. Tu vas remarquer qu'il reste plus longtemps au sein, mais que la tétée, elle est pas efficace. Donc c'est-à-dire que tu le sens pas bien avaler, donc tirer du lait et déglutir. Si la sage-femme est passée ou que tu passes chez ton pédiatre ou chez la sage-femme au cabinet, tu vas remarquer peut-être une perte de poids. Et donc là, ce sont des signes vraiment qui doivent alerter. Et dans ce cas-là, bien évidemment, on rompt le jeûne. Donc bien évidemment aussi, on va distinguer si c'est un allaitement d'un nourrisson, donc un bébé de quelques semaines. Donc déjà, normalement, on parle même pas des bébés d'avant 40 jours parce qu'en général, il y a encore les louchies, donc les saignements après l'accouchement. Et donc là, dans ce cas-là, la femme, de toute façon, ne peut pas jeûner. Mais si tu as dépassé cette période-là et que tu te sens d'attaque pour jeûner, donc si un de ces signes-là, donc diminution de la production, diminution du poids du bébé, un bébé plus agité, tu sens vraiment que ton bébé n'est pas rassasié, dans ce cas-là, il faudrait vraiment rompre le jeûne. Donc je disais, on va distinguer un nourrisson qui est allaité, donc clairement, on déconseille le jeûne chez les nourrissons juste de quelques mois. Et donc, c'est à distinguer d'un bébé qui est déjà au-delà de 5-6 mois, qui a déjà la diversification alimentaire qui est en place, c'est-à-dire qui a déjà des repas avec des légumes, voire même avec des féculents, s'il est déjà plus grand. Et donc là, le nombre de tétés est déjà moindre, d'accord ? Donc ça peut être plus facile à gérer dans le quotidien. Pour celles qui me disent « Oui, mais Zina, moi j'allaite et pourtant j'ai une augmentation de ma production de lait », c'est très bien, ça hâte comme encore une fois, mais c'est pas le cas pour toutes, d'accord ? Et de grâce, arrêtons entre femmes de nous tirer des balles dans les pieds, comme je vous dis toujours, les pires ennemis des femmes sont les femmes, et donc ça sert à rien de dire « Regarde, moi j'ai essayé, j'y suis parvenue, donc toi aussi, fais un effort ». Il n'y a rien de pire, en fait, pour une femme qui est enceinte ou une femme qui allait, d'entendre ça et du coup de développer vraiment une sorte de culpabilité. C'est déjà pas évident comme ça, mais après, voilà, c'est à nous vraiment, en tant que femme enceinte ou en tant que femme allaitante, de justement comprendre aussi que le mois de Ramadan, ce mois béni, n'est pas exclusivement autour du jeûne, en fait. Il y a d'autres activités spirituelles qui peuvent justement être mises en place, être développées, comme le dhikr, donc la méditation, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de se retrouver seul et de réfléchir, le fait de faire du certaines exhortations, certaines invocations, le fait de lire le Coran, le fait de faire des aumônes, le fait de passer du temps en famille, se rappeler aussi que c'est une période durant laquelle, en fait, on est récompensé aussi d'une autre manière. Le fait de prendre soin de soi en tant que femme quand on est enceinte et quand on allaite, le fait de prendre soin d'un petit être qui est en train de grandir et de se développer dans notre utérus, le fait de justement allaiter et donc d'alimenter notre bébé pour le faire grandir, c'est aussi une manière d'être dans l'adoration. Et c'est notre manière de voir justement, on va dire de changer un peu notre manière de voir les choses et de pas avoir vraiment un regard qui est arrêté en disant purée, si je jeûne pas, j'ai raté mon mois, c'est un mois qui est gâché. Vraiment, de changer notre manière de voir les choses, de changer notre regard et de voir aussi que si Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous a permis de ne pas jeûner en tant que femme enceinte ou en tant que femme allaitante, c'est parce qu'il y a des raisons. Et Dieu sait mieux que nous. Et donc, il faut pas être plus royaliste que le roi. Et il faut pas commencer à se mettre en danger. Et surtout, risquer de mettre en danger notre bébé. Je rappelle aussi que le fait de ne pas être à l'écoute de son corps et de dire, bon, c'est pas grave, il me reste juste une heure ou deux jusqu'à le marlet, et donc je vais m'allonger et finalement ces symptômes-là vont s'atténuer. Ça peut être une mise en danger pour soi et pour le bébé. On a déjà eu des situations où les femmes ont eu un travail prématuré, donc comme je disais tout à l'heure, le travail va se déclencher plus tôt que prévu, ou il y a eu des bébés qui ont été en souffrance fœtale, donc des femmes qui ont été hospitalisées pour des contractions qui sont arrivées de manière précoce. Et à ce moment-là, on voit que le bébé est en souffrance avec une diminution des mouvements fœtaux, une diminution du rythme cardiaque chez le fœtus. Et donc, ici, c'est une question de responsabilité. Je vous parle toujours de responsabilité. Et dans le cas du mois de jeûne, on a aussi une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis aussi du bébé que l'on a au sein de notre utérus ou bien dans les bras si on allait. Et donc, il est hors de question, je répète, il est hors de question de se mettre en danger ou de mettre en danger notre bébé. Donc même si on allait, je trouve ça dommage vraiment de se dire bon bah c'est pas grave, je vais passer un allaitement mixte, donc donner du lait en poudre alors qu'un bébé était exclusivement allaité. Encore une fois, vous le savez bien, j'ai absolument rien au contraire, envers les femmes qui ont choisi de ne pas allaiter, de ne pas donner le sein pour des raisons qui leur appartiennent. Mais je trouve ça dommage pour des femmes qui avaient un allaitement maternel qui se passait bien, qui se retrouvent pendant le mois de Ramadan à donner du lait en poudre pour pouvoir jeûner. D'accord ? C'est une balance avantage-inconvénient ou bénéfice-risque à prendre. Mais vraiment, prenez le temps. Et je voulais justement vous partager ces réflexions-ci, maintenant que ça fait déjà une semaine que le mois de Ramadan est passé, afin que chacune puisse justement prendre une décision en avec conscience, en ayant réfléchi et en se disant « Ok, je me rappelle pourquoi je le fais, pour qui je le fais, et il n'y a pas de mauvaise décision, d'accord ?» Dieu n'encombre à aucune âme plus qu'elle, ce qu'elle ne peut porter, plus qu'elle ne peut supporter, donc ça sert à rien de se mettre en danger juste pour dire « j'ai jeûné », d'accord ? Voilà, c'était mon petit moment de partage avec vous. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez vraiment pas à le partager aux femmes autour de vous, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes. Et donc, vraiment, quand je parlais des femmes enceintes, c'est la même chose qu'on soit en début de grossesse ou qu'on soit en fin de grossesse. Il y a des femmes en début de grossesse qui ont, par exemple, des nausées très importantes. Et le fait de jeûner, pour elles, peut être quelque chose qui va justement faciliter, qui va calmer ces nausées, qui va leur permettre de rouvrir les yeux et de revoir une vie plus ou moins normale. Pour d'autres, au contraire, l'état de jeûne va vraiment aggraver cet état nauséeux, va augmenter les migraines, et donc là, bien évidemment, on rompt le jeûne. Pareil, en fin de grossesse, il y a des femmes qui ont certains symptômes, et le fait de jeûner va venir un petit peu calmer souvent le reflux gastro-œsophagien, donc vraiment le reflux de fin de grossesse, la fameuse acidité. Pour d'autres, au contraire, le fait de jeûner va, encore une fois, amener des maux de tête et amener des contractions. Autre information importante, pour celles qui souhaitent jeûner, donc idem pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, vous pouvez le faire, sauf s'il y a des symptômes que j'ai cités précédemment, mais si vous souhaitez jeûner, rappelez-vous d'avoir un bon état d'hydratation, donc vraiment de boire une quantité d'eau suffisante entre le maghrib et le fajr, donc vraiment on parle de au moins 1,5 litre, voire même 2 litres dans certains cas, et de bien vous nourrir, d'accord ? On évite au maximum une alimentation ultra transformée. On a des aliments riches, donc vraiment manger des soupes, manger du poisson, manger de la viande, manger des légumineuses, fractionner les repas. N'hésitez pas pendant la nuit à vous réveiller pour boire aussi, encore une fois, pour fractionner vos repas et vos boissons. Et si tel est le cas, dans ce cas-là, vous verrez que vous serez en meilleur état de santé, en meilleure forme pour pouvoir tenir la journée. N'hésitez pas aussi à vous reposer, et donc là on parle bien d'un repos en position allongée, d'accord, afin de soulager vos surrénales. Et donc n'hésitez pas à faire des petites siestes, même des micro-siestes de 15-20 minutes, sans forcément rentrer dans un sommeil profond, mais ça peut être tout à fait suffisant pour vous ressourcer et redémarrer du bon pied. Donc voilà, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les partager. Prenez soin de vous ou prenez soin de votre foi. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité. Et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.